C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Émile et le joint de culasse. Un album de Vincent Cuvelier et Ronan Badel aux éditions Gallimard Jeunesse. Aujourd'hui, Émile fait la voiture. Vroom, vroom. Avec un copain de maman, ils prennent la voiture et ils traversent la France. Oui, oui, la France. Émile traverse un pays vroom vroom comme ça, en quatrième vitesse. Le copain de maman, il veut toujours s'arrêter faire pipi et boire un café. Alors que Émile, il veut jamais boire de café, ni faire pipi. Jamais. Émile ferme les yeux parce que Émile aime bien fermer les yeux quand il roule. Mais le copain de maman dit
« Aïe, 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 ah zut, c'est rouge !»
Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Alors, le copain de maman s'arrête sur le bord de la route en disant des gros mots. « Fais chier ! Bordel de merde ! Saleté de bagnole de merde !»
Émile aime bien quand le copain de maman dit des gros mots. Il téléphone à un garage.
Oui, bonjour, Garage du Soleil.
Et le garage vient. Le copain de maman est pas content parce que ça va lui coûter bonbon, il dit. Émile, lui, il est content parce qu'il monte dans la dépanneuse. Le garagiste regarde la voiture. Il souffle. Et plus il souffle, plus le copain de maman a l'air triste.
J'arrive pas à les réparer, mais franchement.
Le garagiste se retourne et dit :
C'est joint de culasse.
C'est le joint de culasse. Le joint de culasse.
Émile adore quand c'est le joint de culasse.
Il n'y a pas mieux au monde que le joint de culasse.
Le garagiste dit qu'il n'a pas la pièce et qu'il faut dormir ici.
Ici ? Dormir ici ? Dans le garage ?
Émile adore dormir dans le garage.
Le copain de maman dit
« On va chercher un hôtel. » Mais un petit hôtel, hein, un tout petit petit hôtel. Parce que joint de culasse, ben, ça coûte bonbon.
Il dit, le copain de maman. Le lendemain, le garagiste a reçu le joint de culasse. Le copain de maman, il pleure parce qu'il doit payer le joint de culasse.
Et ça coûte bonbon.
Tiens, mon grand,
dit le garagiste. Et il donne à Émile le vieux joint de culasse. Émile regarde le joint de culasse, le garagiste, le joint de culasse, le garagiste. Émile remonte dans la voiture. Émile traverse la France. Émile revoit sa maman.
Alors ça va, mon chéri? Tu as fait bon voyage? Tu as vu des belles choses? Tu as rapporté des souvenirs?
Oui, Émile a rapporté un souvenir. Un très très beau souvenir.
Un joint de culasse.
Une histoire lue et bruitée par
Martine,
Dominique,
Marie,
Elsa,
Delphine
et Marie-Christine, dans le cadre de la formation « Les liserons ouvrent leurs oreilles », animée par Delphine Pratt, de la compagnie « Les belles oreilles » et enregistrée au studio de Fréquence 7.
Chemin, Anne Bruni et Mac Cloud Zikmus, édition L'Artichaut.
Si j'étais un caillou, je me formerais au centre de la terre, là où il fait très chaud.
Propulsé à la surface, je deviendrais une montagne.
Je resterai comme ça.
Beaucoup d'été chaud, beaucoup d'hiver froid me fissureraient.
Je me transformerai en grand rocher.
La pluie et le vent me feraient rouler au fond d'une vallée.
Tout en bas, je plongerai dans une rivière. Porté par les eaux, poussé jusqu'à la mer, promené par les vagues et le sable.
Je voyagerai jusqu'à la plage. Où tu me trouverais?
Si j'étais un caillou.
Une histoire lue et bruitée par
Catherine
et Catherine.
La Louve. Texte de Clémentine Beauvais, illustré par Antoine Desprezes. Aux éditions Histoire comme ça, Alice Jeunesse. Un soir d'hiver, alors que la première neige venait de tomber sur le village, mon amie Lucie a éternué. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, elle n'était pas assise sur le perron à m'attendre, comme elle le fait d'habitude. J'ai frappé à sa porte et sa mère s'est penchée à la fenêtre. Ah! « C'est toi, Romane. Va vite à l'école, tu seras en retard. Lucie est malade. Elle va rester à la maison aujourd'hui. Et couvre-toi bien. Hein, »« Couvre-toi bien, facile à dire. » Le manteau d'hiver que les dames de l'orphelinat m'avaient déniché était trop grand, mal reprisé. Il laissait passer des filets d'air glacial. Il faisait un froid de loup. Et justement, alors que je me dirigeais vers l'école en patinant un peu dans la neige, j'ai aperçu, de l'autre côté de la rivière, une louve grise qui regardait le village. Ce devait être la faim qui l'avait poussée à s'approcher si près de chez nous. D'habitude, les loups ont peur des humains. Je me suis arrêtée un instant pour observer la louve. Et il m'a semblé voir, oh, juste une seconde, ses grands yeux jaunes se plisser et son ombre sur la neige enflée, comme si en me voyant, ses poils s'étaient hérissés sur son dos. Oh, c'était sans doute une illusion. Le village était très calme, adouci par la neige et le froid. En arrivant sur la place principale, j'ai entendu des rires et des cris. C'était Momo et Louis qui faisaient une bataille de boules de neige en allant à l'école. « Eh oh, Romane !» Bêtement, je me suis tournée vers eux et plaf, une boule de neige dans la figure. Comme si je n'avais pas déjà assez froid comme ça. Je me suis vite penchée pour en esquiver une autre et j'en ai profité pour ramasser deux grosses poignées de neige que j'ai envoyées à la tête des deux garçons. Alors qu'on rigolait, les cheveux pleins de neige, Monsieur Percheron, le maréchal Ferrand, nous a interrompus de sa voix métallique. « Taisez-vous, les gamins! Arrêtez vos idioties !» J'ai voulu rétorquer qu'on avait quand même le droit de profiter de la nouvelle neige, mais le regard grave et inquiet de Monsieur Percheron m'a fait hésiter. C'est alors que j'ai remarqué, au bout de la place principale, un petit attroupement de villageois. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Personne n'a répondu. Louis, Momo et moi, nous nous sommes lentement approchés, la neige fondue coulant le long de nos visages. Et c'est alors qu'on l'a vue. La colombe de glace. Une statue de glace, délicate et transparente, luisant de 1000 petits arcs-en-ciel sous le soleil levant. La statue d'une colombe sur le point de s'envoler, posée sur un haut perchoir. Tout le monde l'observait sans rien dire. Près d'elle, le père de Lucie, catastrophé, tenait entre ses mains rougies par le froid une feuille de papier, fine et nervurée comme une feuille d'arbre. « Qu'est-ce que c'est ?» lui ai-je demandé. Muet, il m'a tendu la feuille, et j'ai lu à voix haute les mots rédigés dans une étrange encre grise. Villageois. L'hiver est rude. Comme d'habitude, vous avez pêché tous les poissons et chassé tous les lapins, les sangliers et les biches, laissant ma meute mourir de faim. Mais cette année, vous êtes allé trop loin. Vous avez capturé ma fille unique et j'exige que vous me la rendiez. Cette colombe est un sortilège. J'y ai enfermé l'âme de l'une de vos filles. À mesure que la colombe fondra, la maladie de Lucie s'aggravera. Ramenez-moi ma fille avant que le dernier morceau de glace disparaisse. Sinon, Lucie mourra. Hâtez-vous, les arbres nous murmurent que cette première neige fondra dans 3 jours. Signé La Louve. La Louve ? S'est exclamé Momo. « C'est qui ça, la louve ?» Aglaé, la plus vieille dame du village, a répondu d'une voix chevrotante. « C'est une sorcière louve qui vit dans la forêt, de l'autre côté de la rivière. Elle a plus de 300 ans. Elle veille sur le village depuis toujours, mais elle peut aussi le détruire. » J'ai repensé à la louve grise et j'ai eu des frissons jusqu'à la racine des cheveux. « Mais qui a enlevé sa fille ?» ai-je demandé. Le père de Lucie, qui est si grand, si costaud et si barbu qu'on n'imaginerait jamais le voir pleurer, a fondu en larmes. « C'est moi. J'ai attrapé un louveteau noir l'autre soir. Je ne pouvais pas savoir que c'était l'enfant d'une sorcière. Ben, »« Eh bien, il faut la lui rendre, » ai-je dit. « Sinon, Lucie mourra. »« Mais c'est trop tard, » a gémi le père de Lucie, la tête entre les mains. « C'est trop tard, j'ai tué le louveteau. » Je voulais faire de sa fourrure un manteau pour Lucie. » Un silence de pierre s'est abattu sur le village, et le père de Lucie s'est effondré au pied de la colombe de glace. Du bout de la queue de la colombe est tombée une toute petite goutte d'eau. Évidemment, on n'a pas eu école. Tous les adultes du village se sont réunis en conseil exceptionnel. Louis, Momo et moi, on s'est installés derrière la porte et on a écouté leur débat pendant une heure. « On va faire une battue dans la forêt avec nos fusils et nos fourches et on tuera tous les loups qu'on rencontrera !» s'est exclamé un bûcheron. Oh, « On ne tue pas une sorcière louve avec de simples armes humaines !» a répondu la voix fanée d'Aglaé. « Il ne nous reste plus qu'à prier !» a doctement conclu la directrice de mon orphelinat. « Oh, c'est ça !» s'est exclamé le père de Lucie. « Et pendant ce temps, ma fille se meurt !» Louis a poussé un soupir. « Oh, ça ne mène à rien. Quelle bande d'incapables !» Ils n'arriveront jamais à se décider. Allons rendre visite à Lucie, ai-je suggéré. Il faut lui donner espoir. Rien n'est jamais perdu. Les garçons avaient l'air d'en douter. Mais on s'est mis en chemin tous les trois et on est vite arrivé à la maison de Lucie. Tous les rideaux étaient tirés. La mère de Lucie, pâle comme la neige, nous a fait entrer sans un mot. Lucie était dans sa chambre, enfouie sous une montagne de couvertures. Elle regardait dans le vide, les paupières lourdes. On s'est assis à son chevet. « Vous l'avez vue ?» a demandé Lucie. « La colombe ?»« Oui, ai-je répondu, la gorge nouée. « Elle est belle ?»« Très belle, brillante comme du cristal. »« Il ne lui reste plus que 3 jours, a dit Lucie. » 3 jours avant qu'elle ne fonde complètement. Et moi aussi. Oh, ne dis pas ça, voyons, c'est n'importe quoi, s'est exclamé Louis. Lucie s'est mise à tousser et puis elle a dit, oh, pas la peine de me mentir. Je le sens bien, dans mes poumons, dans ma gorge, dans ma tête. Ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie de sorcière. Je ne m'en remettrai pas. Elle a désigné quelque chose du doigt. Tout ça pour ça, mais c'est vraiment bête. On a suivi son regard. Suspendu au porte-manteau, derrière la porte, scintillait la peau du louveteau mort. Sa fourrure était d'un noir incroyablement intense et brillant. Et chaque poil semblait frémir, comme si l'animal était encore vivant. Quand on s'est retourné, Lucie s'était endormie. Louis avait les larmes aux yeux. Je me suis levée, je lui ai tapé sur l'épaule. « Ah non, ça suffit, les garçons, on va pas rester là à se morfondre. Il faut faire quelque chose. »« Mais quoi ?» a dit Momo d'une voix étouffée. « Il faut tromper la sorcière louve. Il faut lui faire croire qu'on va lui rendre sa fille et la forcer à lever son sortilège. »« Et comment on va faire ça ?» a reniflé Louis. « Écoutez-moi bien. » J'ai un plan. La mère de Lucie n'a pas remarqué mon sac de classe bizarrement gonflé quand on est sorti de la maison. On est allé se cacher derrière la grande haie qui borde l'orphelinat et j'ai retiré mon gros manteau miteux. Le froid m'a glacé la peau. Vite, j'ai jeté sur mes épaules celle du petit louveteau noir. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Mets-toi à 4 pattes, a dit Louis. Ça faisait un peu froid aux mains. Mais la peau du louveteau était douce et tiède. J'ai entendu Momo siffler d'admiration. « Incroyable ! Elle fait tout juste ta taille. Vu d'ici, on dirait pas du tout que c'est toi. » C'était plutôt confortable. Il faisait bien chaud et près du sol, je sentais l'odeur de la terre et des racines. « Très bien, ai-je dit. Ce soir, à la tombée de la nuit, on ira dans la forêt trouver la louve. Louis, tu feras semblant de me tenir en laisse. « Momo, tu négocieras avec la sorcière. Après m'avoir vue, il faut qu'elle lève le sortilège et qu'elle jure de ne pas le relancer. Et surtout, elle doit aussi promettre qu'elle ne s'attaquera plus jamais à un enfant du village. Comme ça, quand elle s'apercevra qu'on l'a trompée, elle ne pourra plus rien contre nous. » Comme prévu, les adultes du village n'avaient pas réussi à prendre de décision. Certains voulaient raser la forêt, d'autres faire de la magie blanche, d'autres encore résignés disaient que la mort de Lucie était inévitable.
Le soir, à la tombée de la nuit, je me suis échappée de l'orphelinat par une fenêtre mal fermée et j'ai rejoint Louis et Momo sur la place principale. Le bec et la queue de la colombe de glace avaient disparu. Le long de ses ailes ruisselaient de fins écoulements d'eau brillante. « Allez, on y va !» J'ai endossé la peau du louveteau. Louis m'a passé une corde autour du cou et on a traversé le petit pont qui sépare le village de la forêt. Je trottais lentement à quatre pattes dans la neige, mais je n'avais pas froid. C'était même très agréable. J'entendais de très loin le ululement d'un hibou. « Mais comment on va la trouver ?» a murmuré Momo, qui claquait des dents. « Elle viendra à nous, » et je dis. « Comment tu sais ?»« Je le sens. » On s'est enfoncé plus profondément dans la forêt. Il faisait sombre, mais je voyais plutôt bien dans le noir. Et soudain, elle est apparue devant nous. Entre les fougères glacées, comme jaillit de la neige. La sorcière louve, grise comme l'acier. J'ai senti les garçons trembler comme des feuilles. Enfin, Momo a bégayé. « Madame la louve, voici votre fille. » La louve m'a regardé fixement, puis elle a secoué lentement la tête, et sa voix sombre et grave s'est élevée dans la nuit. « Ce n'est pas ma fille. Partez !» On est rentré en courant. Louis et Momo étaient terrorisés, tremblant de froid et de peur. Et moi, je n'avais ni froid, ni peur. J'étais même un peu triste de quitter la forêt. « Elle a tout compris, » a balbutié Louis. « Elle sait que sa fille est morte, elle va tuer Lucie. »« Bon, du calme, » je dis. « On va y retourner demain soir. » On fera mieux. Je vais m'entraîner à marcher comme une louve et à hurler comme une louve. Elle nous croira cette fois. On est allé se coucher, après avoir jeté un coup d'œil à la colombe, dont les ailes s'étaient sinistrement affinées. Et toute la journée, je me suis entraînée à hurler et à me mouvoir comme un loup. J'étais assez fière de moi. J'ai marché quelques heures avec la peau du louveteau. Mon allure était à présent plus fluide. D'ailleurs, mes mains commençaient à s'habituer au contact avec le sol. Elles étaient plus rugueuses, un peu brunâtres. Le soir, j'ai retrouvé Louis et Momo sur la place, près de la colombe amaigrie de moitié, une flaque gisant au pied du perchoir. « J'ai vu Lucie cet après-midi, » a dit Louis. « Elle n'arrive plus à manger, elle est très faible. »« Eh bien, on va la sauver, » ai-je dit. « Allez, courage !» On fait ça pour Lucie. On a traversé le pont à nouveau et on s'est enfoncé dans la forêt. J'étais plus à l'aise que le soir précédent. J'entendais toutes sortes de bruits et de chants, jusqu'au craquement de l'écorce des arbres. Puis des odeurs nouvelles, celles des branches mouillées et celles d'un petit animal, peut-être une souris. « Hé, arrête de tirer, Romane !» m'a chuchoté Louis. Et je me suis aperçue que j'étais partie dans la direction du rongeur. J'ai immédiatement rejoint les deux garçons. « On n'y voit rien, » a grogné Louis. « Bizarre, moi j'y voyais très bien. »« La voilà !» ai-je dit. La louve grise était là, devant nous, patiente et immobile. Instinctivement, j'ai voulu faire un pas vers elle, mais Louis m'a retenue. « Nous avons votre fille, » a murmuré Momo. « Promettez que vous libérerez Lucie, que plus jamais vous n'attaquerez les enfants du... » Mais la voix profonde de la louve, semblant monter du sol enneigé, l'a interrompue. « Ce n'est pas ma fille. Partez !» Tout est perdu, répétait Louis. C'était le lendemain après-midi. On était assis tous les trois sur la place principale. Il ne restait de la colombe de glace qu'une forme indistincte, brillant d'une lumière liquide. Demain, dès l'aube, c'était évident, elle aurait fondu complètement. Les villageois faisaient la queue devant la maison de Lucie pour faire leurs adieux à notre amie malade. Je me suis levée d'un bond. « Non, 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 ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, Lucie ne va pas mourir !»« Arrête, Romane, » a grogné Momo, « c'est trop tard. »« C'est pas trop tard, on y retourne ce soir. » Je vais m'entraîner encore plus. La sorcière n'y verra que du feu. Il faut essayer, les garçons. Il faut tout faire pour sauver Lucie. Et tout l'après-midi, je me suis entraînée à marcher, à courir, à sauter comme une louve, à grogner, à geindre, à mordre. Le soir, quand Louis et Momo m'ont retrouvée sur la place, où la colombe n'était plus qu'une épingle de glace, ils ont ouvert des yeux ronds. « C'est toi, Romane ?»« Ben, qui veux-tu que ce soit ?»« Ma voix était un peu différente, peut-être, mais quoi de plus normal ?» J'avais passé la journée à imiter les loups. On a refait le chemin jusque dans la forêt. « Laisse-moi courir, Louis !» Louis a défait la corde autour de mon cou et je me suis mise à gambader, les mains et les pieds dans la neige fondue. J'ai sautillé à droite, à gauche. J'ai même attrapé une branche pour la grignoter entre mes dents. « Hé, Romane, reviens, ne va pas trop loin !» Je me suis rapprochée des deux garçons un peu agacés parce que j'avais envie de courir partout et de gratter la terre. Et voilà qu'elle est enfin arrivée. La louve grise, longue et belle. Cette fois, Momo n'a rien dit. Je les ai vus, lui et Louis, qui me regardaient bizarrement. J'ai observé la louve. Elle s'est penchée vers moi, elle m'a reniflé l'oreille et le visage. Et puis elle a regardé Momo et Louis et elle a dit, de sa voix tendre et basse, « Merci. » J'ai levé les yeux vers elle. Alors elle y croyait enfin. J'ai passé la main sur ma tête pour retirer la peau du louveteau. Mais ce n'était pas une main. C'était une patte. Et ce n'était pas la peau du louveteau. C'était la mienne. J'ai voulu, de toutes mes forces, avoir peur. Mais je n'avais pas peur. Au contraire, j'étais heureuse. J'avais chaud, j'entendais la musique de la forêt. La louve m'a doucement léché le front. Quand je me suis retournée, Louis et Momo avaient disparu. Je les entendais courir vers le village. « Le dernier fragment de glace vient de fondre, » m'a dit la louve. « Mais Lucie est sauvée. Viens avec moi maintenant. » Parfois, depuis l'autre côté de la rivière, je vois Lucie, Louis et Momo jouer au ballon ou au cerceau dans le village. Parfois, quand ils s'aventurent dans la campagne avoisinante, ils me voient aussi. Ils me font un signe, un peu apeuré. Je réponds par un long hurlement. Et puis je repars, chassé dans la forêt, avec ma mère et le reste de ma famille.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche, en partenariat avec les radios du département, Radio des Boutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.